Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue dans Hors Piste, Hors Studio, ce soir à l'Hôtel, l'établissement parisien où notre invité a ses habitudes. Hors Piste, l'émission qui commence là où l'actualité s'arrête. Si je vous parle du 10 mai 1981, vous allez sans doute penser instantanément à l'élection de François Mitterrand. Sauf que ce jour-là, il s'est passé quelque chose de beaucoup plus important pour vos oreilles, la naissance du groupe Indochine. 40 ans plus tard, Indochine est toujours là, plus que jamais même. Indochine qui remplit des stades, Indochine qui parle à plusieurs générations, Indochine dont le leader, le chanteur, l'âme, la sensibilité a accepté de passer une heure avec nous. Ce soir, oui c'est bien lui, Nicolas Sirkis est dans Hors Piste.
Hors Piste. Thomas Soto sur France Inter.
Salut, c'est Nicolas.
Hello, c'est Dimitri.
Moi, c'est Dominique.
François Mitterrand est élu président de la République.
Ça n'a pas été facile pour certains d'aimer Indochine. C'est sur une décade 90-2000. C'était plutôt, on n'osait pas le dire. Là, aujourd'hui, ce qui est... Même des gens qui nous ont aidés et qui ont fait de la musique avec nous, et à un moment donné, ils cachaient ça sur leur CV. Hein.
Nicolas qui amène le tout côté un peu visuel, tout, bon, il nous impose strictement rien. Je veux dire, s'il arrive avec des trucs complètement farfelus, et ça peut lui arriver, hein, c'est arrivé, on lui dit ça va pas, tu dégages avec ton idée, c'est hors de question quoi.
Mais je suis née en Indochine. Mon père était professeur de mathématiques, ma mère était institutrice. J'avais deux frères et mon père est mort. J'avais 4 ans. Ce qui fait que j'ai été élevée par une femme, avec deux frères. Et dans des conditions évidemment difficiles, puisque ma mère étant institutrice d'école indigène, nous n'avions pas du tout d'argent.
Marguerite Duras a été avec Salinger, les premiers chocs littéraires.
Ce soir, 80 000 personnes en juin dernier au Stade de France. C'est la première fois qu'un groupe français se produisait dans ce stade qui est le plus grand de notre pays. Je suis très heureuse et très honorée et très fière de vous remettre cette victoire d'honneur à tous. Bravo, car je suis moi aussi fan d'Indochine. Bravo.
J'ai demandé à la Lune, bonsoir et bienvenue dans Hors Piste, Nicolas Sirkis.
Bonsoir.
J'ai voulu qu'on termine ce portrait par quelques notes de cette chanson, parce que j'ai l'impression qu'on a tous quelque chose à lui demander à la Lune, qu'elle fait de chacun de nous des poètes du quotidien. Quand vous la regardez, vous, les soirs où elle ne se cache pas, vous lui demandez quoi? Vous lui dites quoi?
Ouf! D'essayer de la voir la plus longtemps possible, en tout cas. Ouais. Moi, j'ai toujours été fasciné par la Lune. Je suis un peu lunaire, c'est ce qu'on m'a dit. Après, quand on est cancer, on est très le signe de la Lune. Enfin, j'ai toujours été fasciné par cette planète parce que c'est la seule qu'on voit en vrai. Et puis qu'avec des jumelles, on voit vraiment des cratères, des trucs. Enfin, ça, ce qui nous rappelle quand même que on est dans une étoile, dans un univers, et que c'est quand même assez spécial, le truc.
J'ai l'impression que Nicolas Sirkis, c'est d'abord une sensibilité, une hypersensibilité même. Est-ce que je me trompe déjà ?
Non. Ouais, je sais pas si tous les artistes sont sensibles, mais ouais, je suis assez sensible à beaucoup de choses. Oui, il y a une sensibilité sur l'écriture, sur une œuvre d'art. Il y a une sensibilité dans la vie courante ou même quand on était adolescent, des choses qui nous arrivent. Ouais. Où effectivement, j'étais pas le cador, quoi. J'étais pas le.
Non, et quand on contraire. Votre âge aujourd'hui, vous l'évoquez, 62 ans,
ouais.
C'est une force ou c'est une faiblesse d'être un garçon sensible dans la vie ?
C'est difficile ça comme question. Je crois qu'il n'y a ni force ni faiblesse. Hein. La sensibilité permet peut-être de créer des choses. Donc en tout cas, c'est ça qui m'a, entre guillemets, fait vivre et sauver.
Vous souvenez de la dernière fois, là, ces derniers jours, ces dernières heures où quelque chose a appuyé sur votre sensibilité ?
Ah oui, c'est une photo de l'AFP. Extrêmement. Vous savez, on est dans une période de Noël, là. Donc, Noël, c'est quand même tout le monde. C'est assez spécial. Et j'ai vu cette photo d'un petit garçon en Afrique qui ramassait un sapin de Noël au milieu d'une décharge. Un sapin de Noël en plastique. Et qui l'a regardé comme ça. Et donc, ça, c'est exactement. Un résumé du monde avec cette violence, mais même si l'enfant n'est pas malheureux, on voit quand même qu'il n'est pas très gros et qu'il ramasse. Donc, effectivement, les trois quarts de l'Occident vont. Même si la situation est plus difficile que ces derniers temps avec la pandémie, se goinfrer de beaucoup de nourriture. Et puis l'autre partie de la planète, voilà, sans doute c'est une autre vie, quoi. Donc c'est assez, ouais, ça va faire assez vite monter les. Oui, c'est assez violent, c'est les larmes aux yeux, ouais. C'est un peu. Je dis bon, ben est-ce qu'on a encore envie de faire des être dans l'opulence, dans ce genre de choses. Ouais.
Nicolas Sirkis, est-ce que vous vous souvenez de la chanson Jouer sur ton corps?
Oh purée, mais comment vous savez ça? Oh mon Dieu, mais c'est horrible cette chanson. Oui, c'est la
racontez-nous, c'est quoi?
Ah non, mais c'est nul. C'est une chanson. Oui, vous l'avez pas quand même. Ouais. Ah non, j'espère que non.
Ouais. Malheureusement, on l'a pas.
Heureusement, je pense que je l'ai détruite. Je l'ai détruite. C'est le premier texte que j'ai écrit. Ouais. Après, il y a eu dissidence politique, mais ouais, c'est le premier. En fait.
Vous étiez dans un groupe qui s'appelait Les Espions à l'époque.
C'est ça, hein? c'est ça. Et
ça parlait de quoi?
Jouer sur ton corps, ouais. Je crois que c'était un truc de cul, hein, franchement. Ouais. Et puis c'était les premières rimes que je trouvais, corps, d'or, or, voilà. Et après, mais très vite, il commençait à y avoir les influences de Duras, parce que je pense que j'ai dû piquer ça dans l'amant, hein, un truc comme ça.
Ouais. Duras, elle a une phrase, Duras, elle dit... Il reste toujours quelque chose de l'enfance.
Oui. Et quand on l'entend là, ce qu'on a entendu
dans le
là.
Portrait, ouais.
Oui. Il reste de toute façon toujours. Je pense que le cerveau a toujours ce focus de ses souvenirs. Parce que nous, notre corps vieillit, mais le cerveau, j'ai l'impression qu'il est, ouais. Moi, je me rappelle des choses d'il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, comme si c'était hier.
Il en reste quoi de l'enfance chez vous?
Des souvenirs, très réguliers, des souvenirs très, enfin, très proche. Je me rappelle vraiment de tout. Surtout là, en ce moment, on est dans cette période, là, avec le livre qu'on vient de sortir, là, sur justement toute ma vie, toute la jeunesse d'Indochine. Je remonte à des trucs où je me rappelle bien. Je veux dire, je dois avoir des terras dans le cerveau. Enfin, le logiciel n'est pas encore bloqué, quoi.
Le livre, hein, c'est Nicolas Sirkis, signé Raphaël Hirsch-Doran,
oui.
Doran.
Hein, oui.
C'est aux éditions du Seuil. On va avoir l'occasion d'en reparler aussi. Mais quand même, depuis cette chanson, j'y reviens parce que
Jouer sur ton corps, merci, c'est quand même pas la meilleure des trucs que j'ai écrit.
Il s'est passé 40 ans depuis.
Oui, c'est vrai.
Plus de 40 ans même. Ouais. C'est l'âge des grands, ça, normalement, 40 ans.
Écoutez, moi, ce que j'aime bien dans le rock, c'est qu'effectivement, je fête mes 40 ans, mais j'en ai 62. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un côté où, comme disait Mick Jagger, le rock. Permet de rester un adolescent éternel. Et c'est ça qui est plutôt cool. J'ai fêté mes 60 ans il y a 2 ans au Stade de Lille. Et là, je fête mes 40 ans. Donc, c'est une sorte de truc à l'envers.
Alors, on vous chante dans les stades, évidemment. Le public reprend vos chansons. Moi, je vous chante sous la douche. Mon fils de 11 ans, il vous chante dans sa chambre. Il y a des jeunes de 25-30 ans aujourd'hui qui vous chantent aussi. Comment vous l'expliquez? C'est pas donné à tout le monde d'être transgénérationnel comme ça?
Non, surtout dans la musique. Je sais pas. C'est justement une explication qui est totalement irrationnelle. C'est parce que on est l'exemple qui ne confirme absolument pas la règle. On doit peut-être pas gêner, alors qu'on gêne beaucoup. Je sais pas.
Mais vos textes, ils disent des choses. Enfin,
c'est pas neutre. Mais j'ai pas envie d'analyser ça. En tout cas, j'ai eu cette révélation quand il commençait à y avoir plein de choses qui tournaient pas rond, c'est-à-dire une baisse de notoriété dans les années 90, le départ de Dominique, le décès de mon frère. Moi, j'ai toujours pensé que mes chansons étaient intemporelles. Alors, ça paraît vachement ambitieux, vachement présomptueux de dire ça, mais j'ai toujours cru que nos chansons passeraient à travers et ne seraient pas démodées. Je sais pas pourquoi, c'est à l'intérieur. Après, pourquoi c'est plein de générations? Oui, on n'est pas beaucoup à avoir ce genre de choses.
Réussir à parler aux vieux qui pensent que les jeunes sont des jeunes cons et aux jeunes qui pensent que les vieux sont des vieux cons, c'est quand même ce que chacun recherche, non? Enfin, dans tous les arts, ne pas se périmer.
C'est surtout dans le milieu du rock un truc assez incroyable, parce que généralement le rock c'est la musique de jeunes, c'est fait pour faire chier les vieux, ils aiment pas ça, etc. Enfin, c'est irrationnel. Donc après, je vais pas dire parce que mes textes sont super bons, parce que notre musique est incroyable. C'est pas ça.
Moi, je voudrais qu'on en parle un peu parce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous chante sous la douche. En fait, je vous yaourte.
Vous yaourte.
Parce que
vous rappelez plus de mes textes.
J'arrive pas.
Super, c'est gentil.
Non, mais parfois j'ai même du mal à comprendre les paroles. Mais j'ai l'impression que vous l'assumez, ça, non?
Bah oui, j'assume cette on appelle ça, pour rester très mesuré, une licence poétique, mais j'assume effectivement.
Pardon, j'ai très vulgairement appelé du yaourt. C'est vrai que c'est plus joli avec.
C'est quand même pas du yaourt.
C'est ma façon de l'interpréter, le yaourt.
Alors voilà, ici dans cet hôtel, venait souvent David Bowie. Ouais. Et il appliquait ce qui s'appelle le cadavreski. Vous mettez plein de mots qui n'ont aucun sens tous ensemble parce que vous avez entendu parler tout d'un coup de licence, ou vous avez entendu parler d'un bus, ou d'une fille blonde, et puis vous essayez de mélanger ça. Et les cadavreski permettent de créer effectivement des choses. Alors, les morceaux de rock anglais, c'est très très comme ça. Et moi, j'ai essayé d'adapter ça aussi à ma façon, mais essayer de garder un certain sens. Donc, je remplis des carnets à longueur de journée de mots, de phrases, de sensations, d'images. Et l'émotion que me donne la musique me permet d'imaginer des choses, et puis ça devient une chanson. Mais alors, il y en a quand même qui disent des trucs, hein.
Mais quand même.
Moi, j'applique ça. Ce cadavreski, c'est une sorte de surréalisme, sans être trop pompeux, de la langue française. Vrai. Et la langue française
permet.
Il y a
du surréalisme là-dedans.
Oui, ouais. Mais la langue française permet d'avoir surtout beaucoup de sens, ou de sens caché, qui me plaisent beaucoup. C'est-à-dire l'ambiguïté du sens du propos est quelque chose qui est pas donné à toutes les langues.
Alors, on est dans une époque paresseuse en matière de mémoire, et vous l'évoquiez il y a quelques minutes. Il faut souvenir que tout n'a pas été simple pour vous, et dans les années 90, vous étiez même...
Mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer.
Voilà, Claude François.
Claude François, c'est dur, hein?
Ah ouais, ouais, ouais. En fait, c'est dur. C'est que nous, on était en Belgique. On avait 12 ans, 13 ans, on arrive en France parce que mes parents sont séparés. Quand on était en Belgique, j'écoutais France Inter la nuit parce qu'il y avait une émission qui s'appelait le Pop Club, avec José Arthur, que j'ai toujours vénéré, et il y avait un mec qui s'appelait Pierre Lattès, et on écoutait le rock. Et dans la journée, on écoutait toutes les radios hollandaises pirates qui passaient du rock à longueur de journée. Et on arrive en France, on ouvre la radio, c'est Claude François, c'est François Valéry, c'est que des François.
Ouais.
Et on dit, mais c'est ça la musique ici. On n'était pas du tout branché sur la chanson française, donc on était assez pour dire mal aimé. On était ce qui s'appelle il y a eu un retournement de situation dans les années 90 vis-à-vis de nous qui était d'une violence
plein la figure.
Oui, mais alors
moqué,
j'ai relu,
imité, caricaturé.
J'ai lu justement, et j'en ai discuté aussi avec lui, avec Jean-Jacques Goldman, mais ça a été extrêmement violent lui aussi. C'est-à-dire que il a même publié tous
dans
les articles,
Libération,
il avait acheté une page où il a publié tous les articles. Le Nouvel Observateur, Télérama, tous ces journaux ont été d'une violence incroyable. Et je lui dis, mais, donc on n'était pas les seuls. Donc effectivement, c'est, des fois, la presse est d'une violence où on dénigre son public en disant que c'était des petites groupies de pacotis, enfin, c'était d'une violence.
On le vit comme une injustice, ça, ou pas? À qui on en veut dans ces moments-là quand la machine se grippe?
Non, j'en veux à personne, je dis eux, J'ai bien noté leur visage. J'oublie pas.
Il y a pas
d'oubli. Je ne pardonne pas. Ah non, non, ouais. Non. Bah, bien sûr que non. Mais après, ça, c'est, moi, après, j'en fais, ça m'a donné beaucoup d'énergie aussi.
Ouais.
Beaucoup d'énergie, mais c'est pas non plus grave. Mais, bah, oui.
C'est pas grave, mais c'est blessant à l'échelle de sa personne, à l'échelle de, quand on a, vous touchez du doigt votre rêve, vous rencontrez le succès, et d'un coup, vous faites démolir les inconnus. Vous avez bien vécu les inconnus, par exemple.
Alors, c'était pas un rêve, hein, de faire une carrière. Hein. Ça, c'est justement
non, mais
ça.
Le rêve de la musique, le plaisir.
Oui,
de la
non,
musique,
le plaisir de la musique, oui. Mais après, le rêve, ça n'a jamais été de vendre des milliers de disques, et c'était pas un besoin comme beaucoup d'artistes de dire on va monter en échelon, etc. On a essayé de gérer le succès petit à petit et de le faire au mieux. L'anecdote des inconnus, le plus violent, ça a été Stéphane, donc mon frère, sa fille venait d'accoucher. Comme ça s'était mal passé, elle a dû être transportée en urgence. Moi, je restais chez lui, c'était dans le sud de la France, et il y avait une rediffusion de ce truc que je n'avais jamais vu. J'ai putain, donc lui, il est en train de souffrir quelque part parce qu'il sait pas si sa fille va s'en sortir. Et la moitié de la France se fout un peu de notre gueule. J'ai dit, c'est quand même cher payé. Mais après, ça passe. Après,
ça
passe.
Vous n'êtes pas dit, on arrête tout, ça suffit, je fais autre chose.
Non, je dis, c'est cher payé.
Ouais.
Et je n'imaginais pas du tout, 25 ans après, 30 ans après, remplir des stades, etc. C'est ça qui est la plus belle des choses.
Et vous avez bien
comme
fait
dirait Guy Bedos, les inconnus sont redevenus inconnus.
Et boum. Vous avez bien fait de pas renoncer, car ça a repris fort et même plus fort que jamais à partir de 2002 avec l'album.
Bah, ça a commencé, et il faut quand même être clair. C'est-à-dire que la mort de Stéphane a redonné une bienveillance de la part de certains médias. Et c'est ce qui manquait à Indochine, c'est d'avoir une communication sur ces albums qui sortaient. Parce que du public qui nous a suivis, il y en a toujours eu, par exemple en Belgique. Et même en France, on a toujours continué à faire des concerts. Même si c'était difficile pour eux de dire qu'ils aimaient Indochine, ils étaient quand même là, ces fans-là.
Mmh.
Et après, effectivement, il y a eu l'explosion Paradise. Donc les clignotants étaient ouverts avec l'album dans cet aria. Et puis après, Paradise, avec J'ai demandé à la Lune, qui était au départ choisi par la maison disque comme une phase B, comme tous les gros trucs. Okay. Hein. Belle Île en mer, c'était une phase B aussi. Hein. Et ben là, boum, plein de gens qui ont aimé ce groupe, ils disent, ah mais c'est eux qui ont fait l'aventurier, donc ça a permis de redécouvrir plein de choses. C'était le petit truc qui manquait. Et après, il y a eu tous les autres albums, et puis depuis Paradise, donc 2002, ça n'arrête pas de grimper comme jamais.
Il y avait Le Grand Secret notamment sur cet album.
Le Grand Secret.
On va écouter quelques notes. Où est le curseur par rapport à 1981, avec toutes ces étapes, 81
J'espère que j'ai changé, parce que moi je me trouve, quand j'écoute des interviews, ma voix, je me trouve tellement con. Jeune et con. Oui, j'ai beaucoup moins... En fait, quand on a commencé ce groupe, nous on sortait de l'énergie du punk, où on s'est dit on va essayer de pourrir le monde, parce qu'on a certainement raison quelque part. Et on pensait que le monde allait nous en vouloir. Donc on monte sur scène, le premier concert en disant on était comme des guerriers, mais avec la peur au ventre. Et en fait, le public, on pensait pas que le public allait nous adorer tout de suite. Et le public nous a adoré tout de suite. Donc tout de suite, ça a mis les choses clairement. Je suis beaucoup plus... c'est pas une question de... Non, j'ai appris à dire non. Voilà, j'ai beaucoup moins naïf. Beaucoup de déceptions sur... Mais je pense que c'est comme toutes les personnes adultes, entre guillemets, déçues de l'esprit humain, de savoir que tous ces gens, cette opportunité, enfin, d'assister à beaucoup de choses, ça permet d'avoir de voir comment peut être humain et comprendre effectivement pourquoi il y a toujours des conflits, pourquoi il y a toujours des choses, de voir où sont les égos, les petits égos de mesurer, les choses comme ça, les mensonges. Ouais, j'ai beaucoup compris.
Puis ils sont trop.
Mais, hein,
ouais. Oui. Allez-y.
Non, j'ai beaucoup compris. Et je pense qu'à la fin, on n'aura toujours pas compris pourquoi on est là. C'est ce que disait, je crois, Jean Rochefort, il avait dit ça. Mais t'as compris quelque chose, toi? Ben non.
Vous avez déjà cité Guy Bedos et Jean Rochefort.
Oui, je sais pas pourquoi.
Non, on est bien.
C'est très France Inter.
Et puis on est dans un hôtel où Oscar Wilde.
Oscar Wilde habitait deux étages au-dessus, absolument. Et faisait des choses incroyables.
Ouais. C'est ici qu'il est parti, d'ailleurs.
Oui,
c'est sa dernière résidence. Parmi ce qui vous a changé, il y a forcément vos enfants. Et puis il y a forcément votre fille, Théa.
Bah ma fille et mes deux garçons, oui absolument. Ouais. C'est beaucoup plus de sensibilité de toute façon quand on a des enfants, beaucoup plus de responsabilité. Avant j'étais irresponsable de moi, là maintenant je suis responsable de mes enfants, donc il faut quand même passer le cap. Comme je suis comme on appelle ça un père célibataire, il faut que je m'occupe d'eux. Donc c'est un moment incroyable. C'est un moment incroyable. Et cette peur, effectivement, de pas être parfait, là, on est au moment de Noël. C'est-à-dire que ma fille m'en a énormément voulu, hein, de lui avoir menti sur le Père Noël. Et donc là, il en reste un seul qui y croit encore. Donc on essaie de le préserver. Ben oui, on ment aux enfants.
Moi aussi, mais.
Oui, c'est ça. Ouais, ouais. On ment aux enfants. Et ils aiment pas parce qu'on leur dit le mensonge, c'est pas bien. Et puis, tu m'as menti, le Père Noël n'existe pas et tout. Putain, la claque que je me suis pris. C'est dur, ça. Et donc, mais il n'y a pas de solution. Mais après, ça peut être chiant. Hein. C'est un œil sur la guitare, un autre sur la bagarre. Hein. Donc, oui, il faut être. Ça m'a permis de. Oui, c'est un torrent d'émotions fort. C'est-à-dire que je pleure encore plus quand je vois des films tristes.
Ouais. Bye bye, Valentine. C'est un texte que vous avez écrit en anticipant le départ de la maison de Théa.
Oui, qui est parti. Ouais.
Vous êtes un peu l'anti-Tanguy, Nicolas Sirkis, parce que c'est pas elle qui voulait rester à la maison, c'est vous qui
voulez
qu'elle reste à la maison, vous vouliez pas qu'elle parte.
Non, mais non, parce que c'est ça va super vite, quoi. C'est-à-dire
elle
que là, elle a 20 ans, elle est partie en Angleterre. tu as fait ses études en Angleterre. C'est en plus compliqué avec le Covid. Donc, moi je suis toujours, il y a sa chambre toujours à côté de moi, donc à côté de la mienne. Donc ouais, c'est super dur. Mais non, moi ça me fait chier, ouais. Ouais. Comme ça, ouais, ça me semble. Bon, après, je la vois heureuse, etc. Mais c'est, on a toujours une complicité. On part toujours en vacances ensemble. Là, bon, elle m'a pas encore présenté ses mecs et tout. Je sais pas. Enfin, son mec, je sais pas.
Vous êtes prêt à le recevoir ou pas?
Oh non.
Moi, le message est clair. Et avec vos garçons, vous êtes comment? Vous êtes pareil?
Ben, j'étais très étonné parce que, alors, le premier garçon que j'ai eu, un jour, il m'a mis un ballon à mes pieds. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Et là, j'ai compris qu'effectivement, c'est pas une fille, il voulait jouer au ballon. Donc, il y avait ce truc de genre, là, qui m'a un peu, et puis, en fait, ouais, ça va super bien. Ils sont totalement différents. Ce que j'aime surtout, c'est cette, on appelle ça une fratrie, c'est-à-dire que le petit garçon tient la main de son grand frère qui veut pas, parce que il veut, enfin bon, c'est, mais c'est tellement, voilà, moi, ce que, là, les moments que je vis en ce moment, où quand mon petit garçon descend de sa chambre avec tous ses doudous vers 3h du matin, et qui fait attention de pas tomber dans l'escalier, et qui, il a tous ses doudous, et comme ça, il les met dans son lit, il vient dormir avec moi, il y a un truc qui se passe qui est, c'est super mignon, quoi. C'est, j'ai jamais, j'ai des sensations incroyables, incroyables, parce que c'est, on a envie de les protéger. Voilà. Mais on sait que c'est dans quelques années, ils vont nous envoyer chier.
Est-ce qu'il y a une part de féminité chez vous?
Bah, bien sûr.
Il y a beaucoup de gens qui pensent ça.
Oui, mais je pense que tout le monde pense ça. Dans les filles, il y a des parts de masculinité. Il y a des filles qui sont très, très masculines. Il y a des féminins. Je pense que, justement, c'est, il faut assumer ça. Assumer ça. C'est pour ça que j'ai toujours pas trop aimé, moi, les vestiaires de garçons. Le côté ça, j'ai pas trop aimé.
Vous pourriez être un yel, comme on dit aujourd'hui?
Ça, c'est quoi un yel?
Vous savez, c'est quand on est ni il, ni elle.
Ah, un yel. Ah, j'avais compris. Y comme la chanteuse. J'en sais rien. Franchement, il ou elle, les deux pronoms. Ouais, écoutez, je pense que ça dépend si on la lie à la sexualité ou est-ce que c'est un truc qui doit être lié à ça ou pas. Je pense que, moi, j'aime de toute façon les deux artistes qui m'ont donné envie de faire de la musique. C'était les deux plus androgynes du spectre. C'est-à-dire, c'était Patti Smith et David Bowie. Après, je trouve que les hommes, les dandys, les hommes qui se maquillent, tout ce côté-là, c'est moi j'adore ça. Ouais. J'adore Guillaume Gallienne, qui est quand même très féminin dans sa façon de parler, mais en fait c'est pas si féminin là, c'est précieux. J'adore des filles garçons manqués comme des DJ qui sont. Donc j'ai aucune, je suis pas très effectivement
genré.
Voilà, je suis dérangé et dégenré.
Dérangé et dégenré. Ouais. Vous parliez de votre frère, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises depuis le début de cette émission. Je voudrais qu'on réentende la voix de Stéphane, Stéphane Sirkis, qui a été lui aussi un pilier d'Indochine.
On a commencé la musique en écoutant les Clash, les Pistols jouer, parce que bon, on a vu que c'était possible de jouer sur deux cordes, alors on dit pourquoi pas nous, puis on a commencé comme ça. Sur deux cordes, tu peux pas faire 36 choses, quoi, donc on s'y est mis.
Oui, c'était l'énergie du punk.
Ouais. Stéphane, c'était votre jumeau.
Faux jumeau. Alors c'est précisé, c'est quand même très 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 différent que les vrais jumeaux.
Il est mort en 99.
Ouais.
J'ai pas de jumeaux, mais j'ai un frère. Et c'était votre jumeau. Frère très proche. Non. Je connais le lien fraternel. J'imagine ce que doit être le lien qui unit même des faux jumeaux. Est-ce qu'on peut continuer à vivre comme avant ou normalement sans sa moitié, Nicolas Sirkis?
Très. Alors, pendant toute notre enfance, on nous appelait les jumeaux. Ça n'a jamais été Nicolas et Stéphane. Pendant toute notre enfance, notre famille, c'était les jumeaux, on nous habillait pareil, etc. On a eu une sorte de, à l'adolescence, de rébellion, où là, on est devenu Nicolas et lui est devenu Stéphane.
Rébellion par rapport aux autres ou l'un contre eux?
Non, pas l'un contre l'autre. Non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a dit, mais chacun, on a un univers, quoi. Stéphane avait le sien, moi j'avais le mien. Et nos chemins sont séparés. C'est-à-dire que lui, il était parti dans une sorte de politique extrême gauche, etc. Moi, j'étais plus sensible, machin. Et il y a eu une confrontation artistique de toute façon. Pourquoi tu fais ça? Mais après, c'est dans le domaine de l'intime, j'ai pas ressenti ça comme ça. J'ai ressenti ça que de toute façon, et c'est après, c'est toutes les croyances. Est-ce qu'on croit en Dieu? Qu'est-ce qui se passe après, etc. J'ai trouvé ça tellement injuste. Mais c'était et on peut pas dire grand chose parce que c'était à un moment donné quand on essaye de sortir quelqu'un de son addiction et de voir qu'il en a pas envie, c'est soit lui soit nous. Et donc à un moment donné le choix il est fait d'une façon implacable. Et je pense qu'on oui la preuve on peut vivre de sa moitié parce qu'il m'a donné la force de continuer quelque part, d'une force contre lui, d'être en colère contre ce qu'il a fait et ce qui s'est passé certainement.
Et est-ce qu'aujourd'hui il vous arrive à vous de vous en vouloir de ne pas avoir réussi à l'aider? Vous avez essayé, mais
Bien sûr.
Ouais.
Ça, moi j'ai toujours dit que j'avais beaucoup de regrets, beaucoup de remords sur cette situation-là. J'aime pas trop les personnes qui disent je n'ai pas de regrets, j'ai pas de remords, moi j'ai que ça. Et je pense que ça fait avancer. Ça fait avancer pour essayer d'être plus mieux et encore mieux. Voilà, dans le groupe, il y avait deux personnes qui étaient dans une addiction effroyable. On a pu en sauver qu'un. Malheureusement, c'était pas mon frère, mais heureusement qu'il y en avait un autre. Donc Dieu sait que c'est difficile. Dieu sait que c'est difficile. Donc les gens qui sont assujettis à ce genre de dans les familles, c'est insurmontable.
Qu'est-ce que vous vous dites quand vous pensez à lui aujourd'hui?
Je me dis, c'est surtout une émotion que j'ai sur scène. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on joue ces morceaux au stade et que les voir qui sont repris, je dis pas ah putain pourquoi il est pas là pour les voir, etc. Je sais qu'il les entend. Alors c'est ridicule, mais je me dis, je sais qu'il les entend.
Vous disiez
donc
là,
c'est-à-dire que les deux membres du groupe, Dominique est parti en 94 en disant j'ai eu honte de jouer dans ce groupe. Tout ça parce que à l'époque c'était tout le monde nous crachait dessus. Et moi, mon objectif, et Stéphane, lui, il est parti malheureusement dans une autre direction parce qu'il avait envie d'oublier. Parce que, en fait, il a été très fragile, lui. Il ne comprenait pas que ses meilleurs amis, tout d'un coup, l'ont ignoré. Et ça, c'était d'une violence incroyable. Ses meilleurs amis, qui étaient des techniciens, qui étaient des artistes, à l'époque où les années 80, tout le monde nous voulait, même des il faisait une émission de télévision à Canal+, etc. Tous ces gens-là lui ont pratiquement tourné le dos après. Et donc ça, il est tellement sensible qu'il en a pris plein la gueule. Oui. Moi, comme j'ai fréquenté pas ces gens-là,
c'est là qui protégé un peu.
Ouais,
un
je
peu
me suis protégé
ça.
Ça.
Vous parliez de Dieu tout à l'heure. Ça a changé votre rapport à Dieu, à la foi, à vos croyances?
Bah, j'ai tellement prié dans mon coin pour qu'il s'en sorte qu'effectivement, comme il s'en est pas sorti, oui, ça a changé, oui, radicalement. Ouais. Ouais. Radicalement. Maintenant, je veux dire, si après, je suis pas devenu anti-religion ou autre chose, que les gens croient en ce qu'ils veulent, etc. Mais les religions ont tellement fait de problèmes et font encore de problèmes dans le monde entier que, oui, de croire en quelque chose, c'est de parler à quelqu'un. Mais moi, je parle à mon psy, c'est déjà un psychologue ou je fais de la gymnastique d'esprit. Mais oui, depuis que j'ai vu mon frère mort, oui, je crois plus en Dieu parce que je me dis non, ça s'éteint, c'est tout.
On va marquer une pause musicale.
C'est
avec
classe, ça change le truc.
Avec votre choix, Nicolas Sirkis, vous avez choisi David Bowie.
Oui, Diamond Dogs.
Pourquoi?
Parce que c'est cette chanson-là qui m'a donné envie de faire de la musique et que c'est, je crois qu'il l'a écrit ici dans cet hôtel en 73, 72. Ouais.
Donc des Beaux-Arts à Paris.
Ouais, et c'est une chanson qui est tout de suite dans le genre. Est-ce que je suis une fille ou un garçon? Va savoir.
Comme quoi,
voilà.
Les débats ne sont jamais clos. David Bowie.
Little horse there with his ghost town approach.
Nicolas Sirkis est dans Hors-Piste sur France Inter. On écoutait David Bowie. David Bowie qui est un peu, vous nous le disiez, à l'origine d'Indochine. Il paraît qu'au début, tout le monde trouvait que ce nom, Indochine, était un nom qui n'allait pas.
Ah oui, 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 c'était exécrable. C'est-à-dire que toutes les maisons disques voulaient nous signer, mais voulaient qu'on change de nom. Parce que ça représentait, à l'époque, une défaite française. C'est une colonie perdue.
C'est
effectivement, on aurait
c'est
pu s'appeler.
C'est pour ça qu'ils voulaient pas que vous appeliez Indochine.
Oui, parce qu'ils pensaient, ouais, vous auriez pu vous appeler Algérie française, ça va pas et tout. Qu'est-ce que c'est que ce nom de truc? Et aucun, effectivement, n'avait fait le rapprochement avec Marguerite Duras. Moi, je trouve que c'est un nom.
Qui est la vraie raison?
Qui est là, de toute façon, la vraie raison. Et pour, oui, alors, ça n'a rien à voir avec les chinoiseries non plus. C'est que ce côté un petit peu de décadence de sa langue, sa sensualité, son côté charnel, même dans la phonétique Indochine, je trouve ça super joli. Puis il y a un côté sans doute provocateur. À un moment donné, on avait mis des mots avec Dominique, FTP, franc-tireurs et partisans, les partisans, enfin des trucs où à l'époque, dans les années 80, il fallait voilà, téléphone, enfin je veux dire, il y avait Trust, il y avait des machins, donc on essayait de trouver des noms.
Il vous arrive de relire des lettres que ces fans vous envoyaient à l'époque, au début, tout ça,
ben,
ou pas?
Avec Raphaël, avec qui on a écrit,
Raphaël, quoi,
était une fan du groupe. Elle a connu le groupe à 11 ans, ça aurait pu être un autre artiste. Et moi, ce qui m'intéressait justement, parce que je trouvais que il était temps d'écrire enfin le vrai livre, parce qu'il y a plein de livres qui sont sortis sur nous.
Et il ne pouvait être écrit que par une fan, ce livre?
Non, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a plein de livres qui sont sortis sur nous. On n'a absolument pas collaboré ou fait quoi que ce soit. Et ce que je voulais dire aujourd'hui, sur 40 ans, c'était pas d'avoir une vision journalistique de fait d'une biographie, mais c'était d'essayer de démontrer ce qui était inexplicable, pourquoi Indochine est là au bout de 40 ans. Et que c'était quelqu'un d'une troisième génération. Alors cette troisième génération, elle a connu le groupe à 11 ans et elle est devenue entre-temps journaliste. Donc elle vient pas de nulle part, c'est pas une fan non plus, mais c'est aussi une écrivain qui a travaillé sur différentes chaînes de télévision, etc. Et je l'ai rencontrée comme ça par l'intermédiaire de quelqu'un de Pierre Lescure, pour pas le nommer. Et donc il m'a fait rencontrer et j'ai dit, ouais, c'est ce que je voulais dire là. On a 40 ans, on veut... Je pense qu'on peut se permettre de fêter le truc. Donc on a fait cette sortie de les concerts des stades, etc. Et d'écrire un livre, et on est en train de préparer un film. Pas pour se la péter, mais justement pour expliquer ce qui est inexplicable, parce que les fans disent « Indochine, ça s'explique pas, ça se vit ».
Il vous touche, ce livre?
Non, bah oui, ça fait un an qu'on y a travaillé. Ouais. On a travaillé un an dessus, à défaire toutes mes archives, et je ne savais pas que j'avais gardé autant de choses, donc des lettres de moi quand j'étais petit et qu'écrivait à ma mère en pension, des choses comme ça. C'était donc on a ouvert plein de trucs et oui, ça m'a fait replonger dans l'histoire, ouais, effectivement. Donc
Avez tout ouvert. Vous donnez facilement votre confiance ou pas?
Ah non non non.
Ah non non non. Hein.
Non non non. Il y a dans le groupe, il y a eu on va dire trois personnes. Il y a ma collaboratrice Émilie, il y a Oli de Sade qui était un fan du groupe et qui est devenu aujourd'hui compositeur depuis 20 ans. J'ai eu confiance et Raphaël que j'ai vu et j'ai senti qu'avec qui je pouvais travailler là-dessus et lui donner effectivement les clés de chez moi. C'est ce que je dis, la meilleure chose en confiance, c'est donner les clés de chez soi à une femme ou à quelqu'un d'autre. Mais non, après sinon j'ai confiance qu'en mes enfants même.
En tout cas, ces fans, on les retrouve dans des enceintes qui sont des enceintes immenses, puisque vous êtes un des très rares groupes, particulièrement groupe français, à pouvoir remplir des stades. Vous avez fait plusieurs fois le Stade de France notamment. Sur scène comme ça dans des stades immenses devant 60, 70, 80 000 personnes, vous vous dites quoi? Sans fausse pudeur, pour de vrai, vous vous dites quoi?
Ben avant, je crevais de peur, mais franchement, je crevais de peur, j'avais le cœur qui battait. C'était les pires moments, c'est ça.
Donc c'était d'abord une souffrance?
Souffrance, c'est peut-être pas le mot, mais enfin, c'est pas agréable. Le premier Stade de France, c'était en 2010. Je monte sur... On avait travaillé 3 jours dans ce stade vide. J'ai dit, oh, ça va, c'est pas non plus... Ça va, c'est pas si grand que ça et tout. Sauf que vide, ça n'a rien à voir avec 80 000 personnes. Et donc, après, je sors de ma loge, on va vers la scène, et là, je vois 80 000 personnes. Là, je peux dire, j'étais pas mal, mais je dis, mais je vais jamais y arriver. Et puis, le temps de monter sur scène, on fait les premiers accords du morceau. Et puis en fait, j'ai eu cette vision de dire, mais en fait, ces gens, ils sont venus pour toi, ils sont pas venus contre toi. Et depuis ce moment-là, je touche encore du bois, mais j'ai plus le trac du tout.
Ça a tout débloqué.
Ça a tout débloqué, ouais. Et je monte devant des stades, dans des festivals, ou forcément à la scène comme à la ville, où j'essaie de m'amuser et de prendre le mieux et de travailler. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire pour les prochains stades, de travailler sur des moments où il va se passer des trucs incroyables.
Les prochains stades, il y aura le Stade de France, il y aura le Vélodrome, il y aura Lille aussi, je crois.
Les deux stades soir à Pierre-Mauroy, il y aura le Stade de Bordeaux, je sais plus comment il s'appelle, il y aura Lyon, qu'on n'a jamais fait, le Groupama Stadium, enfin, ouais. On fait pour la première fois, on va faire une tournée de stades en France, mais on a pris les stades, ceux qui recevaient le plus dignement le public, c'est-à-dire des nouveaux stades.
Et un concert dans une petite salle?
Alors, ça va être ça, on adore faire ça, c'est-à-dire on joue dans un stade le lendemain du dernier stade à Paris, on a joué à Londres devant 500 personnes. Et pour la promo du concert aussi des stades, on a fait des petits clubs. On adore passer d'un endroit à l'autre comme ça.
Quel est l'endroit où vous rêveriez de jouer, vous n'avez pas joué encore?
Ben, je sais pas.
Quelque temps, Sting et Patti Smith ils ont joué au Panthéon, par exemple.
Ouais, mais ça résonne trop, le Panthéon. Ouais, il y avait une tournée. Non, mais c'est le problème.
On fera un sonorier.
On a visité le Panthéon parce qu'on devait tourner un clip, là. Non, mais il y a, franchement, on rêvait de jouer à Hanoï, on a joué à l'Opéra d'Hanoï. Là, j'ai pas de vision. Pour l'instant, j'ai pas un rêve là-dessus. Ça viendra petit à petit. Il y a pas. Il y a les Jeux Olympiques qui arrivent en 2024. Est-ce qu'on peut faire un truc pour ça?
Ah, une petite envie.
Bah oui, c'est cool parce que j'aime beaucoup le sport, j'aime beaucoup l'athlétisme, j'aime beaucoup le. Maintenant, faut voir ce qui va se passer.
Là, vous lancez un petit appel à candidature, quoi. Non, il y a un petit.
Non, je fais pas d'appel d'offres.
Non. Mais si on vous appelle, vous répondrez au téléphone.
J'ai vu la cérémonie anglaise, était magnifique. Ouais. Il y avait Madness, il y avait Paul McCartney, il y avait. Elle était smart. Bon, ici en France, il y a un autre problème. Je sais pas qui va faire qui va faire quoi. Mais c'est pas mon rêve non plus. C'est-à-dire que là, c'est déjà de réussir à faire nos 6 stades avec cette histoire de pandémie et de maîtriser tout. Et puis après, on a d'autres projets, on a à sortir un nouvel album. Enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup de choses.
Bon, alors attention, je vais sortir la boîte à clichés, Nicolas Sirkis.
Ah, allons-y.
Quand on est né à la musique un 10 mai 81, on se dit qu'on vote et qu'on vote forcément à gauche. Cliché ou pas cliché?
Non, pas cliché. Oui, on vote à gauche, mais on vote plus, donc.
Vous votez plus?
Mais non, parce que la gauche, je sais plus où elle est. En tout cas, cette gauche-là, elle me parle pas des masses. Donc non. Et puis j'ai perdu ma carte électorale. Il faut que je gère là.
Oui, il y en a pas besoin pour aller voter. Hein.
Ben, oui, mais j'ai changé de domicile, donc il faut que je gère là. Ouais. Et puis l'endroit où je vote, apparemment, c'est quand même mettre une aiguille dans une botte de foin. Ça sert pas à grand chose.
Ouais. Vous y croyez plus? Vous êtes un peu désabusé de tout ça?
Non, alors pas du tout. Moi, je trouve que, franchement, en tout cas, je suis un des rares artistes à pas taper sur ce gouvernement parce qu'ils s'en sont pris plein la gueule. Franchement, alors je parle pas des trucs des gilets jaunes où je peux comprendre que ça a été d'une violence incroyable et les revendications tout à fait admissibles, on va dire. Mais se taper une pandémie comme ça, et franchement, je pense qu'ils ont essayé de faire au mieux. Mais je parle de tous les gouvernements. Ils ont essayé de faire au mieux. J'aimerais pas être à leur place. Ouais. Ils ont quand même, moi je vois plein de musiciens en Angleterre ou plein d'amis qui sont cuisiniers dans des restaurants qui sont tous tombés en faillite, etc. Ici, il y a eu quand même une sorte de prise en compte de ça qui est juste ça. Après, pour les élections, effectivement, oui, je suis le dossier quand même. Hein. Je suis le dossier, etc.
Tous vos fans, vous sentez pas une responsabilité de leur dire allez voter, votez pour qui vous voulez, mais allez voter?
J'ai pas envie de ça. Moi, j'ai pas envie de ça. Je sais que le seul truc que j'ai pu dire, c'est à un moment donné, si vous êtes homophobe d'extrême droite, ne venez pas nous voir.
Ouais.
Après, ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai pas à leur dicter quoi que ce soit, même si ils savent que nous, on est un groupe tolérant sur la tolérance générale et qu'on n'est forcément pas d'extrême droite, c'est tout.
Les politiques, ils font souvent le match de trop, le combat électoral de trop.
Oui.
Et vous, est-ce que vous savez quand vous vous arrêterez?
C'est ce qu'on s'est toujours dit quand on a sorti le 13e album. On voulait justement, on s'est mis à table avec Oli en disant, on veut pas faire l'album de trop. C'est-à-dire qu'on veut pas faire un album de plus. Il y a rien de pire que de dire ouais c'est un album de plus ou s'entendre dire c'était mieux avant. Donc on essaie toujours de faire mieux qu'avant. Et c'est ce qui s'est passé avec ce 13e album. C'est-à-dire que sortir 13 albums, un 13e album et qu'il ait autant de succès que celui-là, c'est donc on se met toujours une barre incroyable et surtout on met les compteurs à zéro. C'est-à-dire que quand on commence à écrire, on met tout à zéro et on a tout approuvé.
Il y aura un 14e album?
On est en train de l'écrire, ouais. On s'est dit, on le sortira que quand ça nous plaira.
C'est quand, à peu près, vous avez une idée ou pas?
Si tout va bien, ça serait après les stades, fin 2002, début 2023. Ouais.
Fin 2022, début 2023.
Je sais pas, quelque chose comme ça.
Ouais, ouais.
Mais il faut qu'ils nous plaisent d'abord. Nous, on n'a jamais sorti des trucs qui nous plaisaient pas.
Ouais. Ils sont souvent obsédés par la trace qu'ils vont laisser aussi les politiques. Et d'Indochine, il restera quoi?
D'Indochine, il restera quoi? J'en sais rien. Moi, je m'en foutrais, je pense, parce que je serais plus là. C'est pas ma préoccupation. Non. J'ai pas cet égo-là. Après, il y aura mes enfants, donc j'essaie de soigner mon image et qu'ils aient pas à regretter d'être.
Qu'ils soient fiers de leur papa.
Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est surtout ça.
Comme chaque invité d'Orpice, on vous a demandé d'apporter un objet.
Ah oui.
Alors, qu'est-ce que vous avez choisi?
En ce moment, il est où mon manteau? Il est là-bas.
C'est quoi alors?
Alors, en ce moment, c'est plutôt du gel hydroalcoolique que j'ai avec moi, mais là, c'est une petite boîte à musique que j'achète parce que je vais souvent à Londres, qui joue une chanson des Beatles.
Ah ouais.
Hey Jude. Et ça me relaxe. C'est un peu ridicule, mais ça me relaxe.
Non, parce que Zazie, quand elle est venue dans Orpiste, est venue avec une boîte à musique qui jouait Imagine de John Lennon.
La vache. Ben moi, c'est Jude. Une boîte à musique comme celle-là?
Ouais.
Ah oui, d'accord. J'adore cette chanson et Jude. Là, je viens de voir le documentaire des Beatles là, et j'ai pris une claque incroyable.
Ouais.
On aurait cru que ça a été fait il y a 2 jours et je sais pas, ça passe sur une plateforme là en ce moment et tout. Et les Beatles, c'est effectivement les premiers trucs que j'ai écoutés avec les Stones. Et Jude, les accords des Beatles sont pas difficiles, mais leur mélodie voix, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui du top liner, c'est insensé. Les harmonies, les choses, c'est quand même les meilleurs du monde.
Quel est le dernier disque que vous avez écouté là avant de venir aujourd'hui?
Alors là, j'ai découvert un groupe de rap américain qui s'appelle ESG. Et qui m'a scotché. Je suis pas du tout dans le hip-hop généralement, mais ESG.
D'accord.
Voilà.
Nicolas Sirkis, on arrive au bout de cette émission. Qu'est-ce qui vous a fait le plus peur et qu'est-ce qui vous a le plus plu pendant ces 40 ans, ces 40 ans d'Indochine?
Le plus peur, c'est de devenir fou. Franchement, c'est ce que je raconte dans le livre. C'est quand on a signé notre premier contrat. Je me suis mis dans les bras de ma fiancée de l'époque en pleurs et j'avais très très peur. Et il y a eu le film avec le chanteur de Joy Division où j'avais expliqué, mais il a eu peur lui aussi. C'est de plus être maître de soi, ouais. De plus
de vous échapper.
Ouais, c'est ça, ouais. De s'échapper. Et ce qui m'a plus plu, c'est qu'il y a des chansons que tout le monde écoute. Ouais, ça me plaît. Ouais. C'est les concerts.
C'est les concerts.
Ah bah oui, le partage, ouais. C'est les concerts. Ouais.
Merci beaucoup Nicolas Sirkis d'être venu passer
merci à vous,
hors piste avec nous. Merci à Marie Mériet à la réalisation, Charlotte Leloup à la préparation, Claire Tesser à la mémoire vive et Yann Frécy aux manettes. Prochain hors piste dans une semaine pour Noël. Nicolas Sirkis dans hors piste, le dernier mot revient toujours à l'invité.
Ah bon, qu'est-ce que je veux dire?
Ah bah ce que vous voulez.
Bonne fin d'année.
Ah c'est pas mal.
Non, 2022 sera mieux. 2022 sera mieux.
On dirait un slogan de campagne.
Ben voilà, exactement.
Merci Nicolas Sirkis.
Merci à vous.